quand la population reprend.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, guten Abend, bonsoir, good evening, wie geht's? Do you feel good? Comment ça va?
Salut les gones, vous êtes bien à la causerie 22-23h. C'est dimanche, c'est Radio Canu au 102.2 ou sur radiocanu.org. Et autour de la table, nous avons... Ah non, d'abord, on commence par la technique. Clara, salut.
Salut.
Et Jean-Yves qui est là.
Bonsoir.
Et puis...
Fabien.
Ah, bonsoir, ouais. Et puis, bonjour à Nadège. Et bonsoir à Nadège, bonsoir à Emma et bonsoir à Jonathan qui ne sont pas là ce soir. Voilà, ça c'est fait. Et si vous devez nous écrire parce que vous trouvez que l'émission elle est super bien, que vous voulez nous laisser un petit mot, ou qu'elle est pas bien et que vous voulez nous laisser un petit mot quand même, ou que vous êtes un artiste ou une artiste et que vous voulez passer à la causerie, vous êtes une asso, voilà. Et ben ça se passe où, Jean-Yves?
Vous écrivez un petit mail à Radio Canu.
Non, pareil. Voilà,
c'est foutu, j'ai raté mon entrée. On recommence?
Alors, si vous êtes à...
Non, c'est la causerie canu, tout attaché, @gmail.com. Et après, on a aussi un blog où vous pouvez retrouver toutes les émissions passées, toutes les émissions à venir. Est-ce que c'est pas encore sur le blog, en fait.
Est-ce que Clara le connaît, le blog, ou pas?
Je le connais, oui.
Et tu peux le donner aux auditrices et aux auditeurs?
blogs.radiocanu.org/lacauserie.
Merci, voilà. Donc vous avez toutes les informations pour suivre la causerie 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et sinon, vous pouvez aussi aller sur Facebook. On a une page sur laquelle on ne met rien d'autre que des liens vers le blog. temps en temps, il y a des petites vidéos. Là, il y en a une petite que vous pouvez aller voir sur la taille des planètes et des étoiles pour illustrer l'émission qu'on avait fait avec Georges. Voilà. De temps en temps, on met des petits trucs comme ça, mais c'est assez rare. Voilà.
C'est même très rare.
Bah oui. Eh ben, allons-y. Donc,
oui. Eh ben, moi, avant, je voulais aussi saluer toutes celles et ceux, en fait, qu'on rencontre devant Radio Canu.
C'est vrai.
Quand on est là, un petit peu avant l'émission, qu'on a la porte ouverte et que les gens, ils s'arrêtent, ils regardent et qu'ils disent « Oh, mais c'est Radio Canu
!» C'est la radio que j'écoute, j'adore.
Bah oui, viens des rentrées, et puis ben voilà, et puis ça permet de discuter de ce qu'est Radio Canu, de discuter aussi de ce que représente Radio Canu pour les gens. Et c'est super cool.
Et c'est toujours valable, si vous voulez voir comment on fait une émission de radio, vous pouvez venir pendant la causerie, venez un petit peu avant, et puis on vous fait une petite place dans le studio, et vous voyez comment ça se passe, la radio. Ça peut être sympa aussi. Ça fait une sortie scolaire.
Non, ça démystifie en tout cas la radio et que on n'est rien d'autre que des gens comme tout le monde en fait.
Et avant qu'on démarre, parce que quand même il faut le dire, Jean-Yves, joyeux anniversaire -2 heures.
Donc, mais c'est quoi ces conneries quoi.
Joyeux anniversaire à toi.
D'accord, merci.
C'est à toi parce que tu voulais nous parler de nos amis qui ont un petit peu bloqué les routes en ce moment.
Oui, c'est ça. C'est inadmissible. Non, je déconne.
Là, c'est pas RTL. Hein.
C'est pas ça du tout. Non, en fait, je voulais un petit peu rediscuter de tout ça parce que... Parce que en discutant avec des connaissances, etc., qui sont aussi un petit peu engagés par-ci par-là et qui me disent oh bah tu vois en fait, enfin c'était vachement cool quand même ces gens et que je trouvais que juste se dire c'était cool parce qu'il y avait un mouvement.
Tu parles des agriculteurs.
Oui, hein, des agriculteurs. Hein.
Alors, des exploitants.
Des exploitants agricoles, ils se définissent quand même comme ça. Et ben voilà. Enfin donc l'idée c'est pas de refaire toute la chronologie. Enfin voilà, on sait tous un petit peu. Ça tournait autour des revenus en fait des exploitants agricoles comme ils se définissent quand même et voilà enfin du prix de rachat par les grandes surfaces souvent et par les transformateurs aussi de matière
et les abattoirs
hein, les abattoirs et où effectivement la situation des paysans enfin et des exploitants agricoles elle est juste terrible quand même ça on le sait effectivement et enfin je pense que sur tout ça on peut partager le constat
La réalité de ce qu'ils annonçaient, c'est-à-dire que 10% des exploitants agricoles gagnent même pas le seuil de pauvreté, enfin même pas la moitié du seuil de pauvreté est une réalité. Ça, dans les faits, c'est le cas.
C'est ça. Donc après moi, ce que et parce que en fait le mouvement-là était très tenu par la FNSEA, qui est la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Les autres syndicats, j'ai vu qu'il y avait la Confédération paysanne, il y a aussi la coordination rurale et un ou deux autres, mais qui eux sont
la FNAD-CGT aussi qui a fait des communiqués.
Ok, mais qui eux sont effectivement minoritaires en fait dans ce milieu-là. Et d'ailleurs la Confédération paysanne, enfin j'en reparlerai plus tard, mais elle était totalement d'accord sur ce constat en fait quoi. Oui, la situation des paysans, elle est dramatique, mais. Donc l'idée quand même, moi, ce que je voulais revenir un peu là-dessus, c'est aussi qui est la FNSEA en fait. C'est qu'est-ce que c'est comme syndicat. Et parce que, enfin, on va le voir, c'est pas un syndicat comme on pourrait peut-être l'entendre plus communément sur Radio Canut en fait. Donc déjà, comme je l'avais dit, c'est le syndicat des exploitants agricoles, pas des paysans, hein, c'est pas la Confédération paysanne. Vous voyez, il y a déjà des notions de vocabulaire qui parlent en fait déjà
qui sont importantes
en fait. Donc l'idée c'est de faire un petit truc autour de la FNSEA, qui sait, etc. Parce que leur position en fait, leur revendication. Elles sont aussi issues justement de ce que porte la FNSEA. Et la FNSEA, et il y a aussi son célèbre président. Qu'on a dû voir, que vous avez dû voir au moins une fois là dans les 15 derniers jours, je pense, et qui s'appelle donc Xavier Belin. Lui, il est donc le président de la FNSEA depuis 2010. Donc, je voulais aussi parler quand même de ce monsieur parce qu'il n'est pas n'importe qui, hein, et on va donc voir ça. Donc, lui, il est céréalier, hein, il a commencé en 76, à la mort de son père, 17 piges, il a dû reprendre la ferme qui faisait 50 hectares. Aujourd'hui, il en a 500. Avec des associés, mais 500 hectares, hein, on est quand même dans une forme d'agriculture différente.
Intensive.
Et alors, il est aussi le président, donc ce monsieur Xavier Belin, du groupe agroalimentaire Sophie Protéol, qui est une filiale du groupe Avril, et qui, alors, eux, ils sont présents dans les semences OGM, dans les semences et les OGM y compris, dans les huiles, genre des marques connues, hein, genre. Ouais, il y a le sieur Puget. C'est.
Oh, tu veux dire que Puget, c'est pas le monsieur qu'on voit, comment il s'appelle, Fernandel, qui presse les olives?
Non, c'est pas lui.
Alors là,
désolé.
Déçu.
Non, mais et je trouve que là, encore une fois, je pense que c'est toujours très intéressant de savoir qui est au tenant des choses comme ça. Ils ont aussi des œufs. Les œufs Matines, et ben c'est le groupe Sophie Protéol, hein, donc.
Rappelons que Matine a été condamné plusieurs fois pour mal-être envers les animaux. C'est un de ceux qui a été le plus condamné pour des exploitations juste inhumaines, pour pas dire autre chose.
Et ils sont aussi dans les biocarburants. Donc c'est toujours.
Donc on fait au lieu de faire du manger, on fait de l'essence.
C'est
quelle classe.
C'est intéressant quand on sait que le président de ce groupe-là. C'est aussi le président de la FNSEA, d'un syndicat quand même.
Ouais.
Et donc voilà, c'est aussi sur donc ce groupe aussi, hein, donc ils font 7 milliards de bénéfices.
Ouais. De bénéfices ou de chiffre d'affaires?
Ah, part.
Non, chiffre d'affaires, je pense que bénéfice, ça les mettrait au-dessus du numéro 1 du CAC 40.
Non, t'as raison. C'est effectivement, pardon. Ouais. Ils ont 17 sites de production et ils ont 8000 salariés, donc c'est quand même pas non plus...
Ah, par contre, 7 milliards de chiffre d'affaires, c'est énorme. Hein,
c'est une énorme société. C'est pas la PME d'à côté, quoi. Enfin, c'est pas le petit boulanger. Ou la boulangère, d'ailleurs. Bref. Et donc, voilà, moi, ce que je voulais aussi dire, c'est le poids que représente la FNSEA. En fait, on s'en rend pas compte. Si on fouille pas un petit peu, j'espère que vous allez avoir envie de fouiller un petit peu, parce que c'est là que vous allez quand même vous rendre compte de cette nébuleuse, et je dirais presque c'est une forme là aussi d'état à côté de l'état, un petit peu, en tout cas pour ce qui concerne l'agriculture, tout ça. Et quand même, ce Xavier Belin, qui a quand même il a accès à peu près à tous les présidents, que ça soit de droite ou de gauche, hein, quand même. Et avant,
le président de la République, c'est ça?
Oui, président de la République, pardon. Et donc quand même, ce monsieur, avant 2012, en fait, lui souhaitait qu'il y ait un ministère de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Ça a été le cas. Il a souhaité aussi que Stéphane Le Foll soit le ministre. C'est le cas.
Alors, on peut peut-être dire pourquoi il le souhaitait. Parce que Stéphane Le Foll était un énorme défenseur des biocarburants.
Et oui.
C'est-à-dire que ça a été un de ceux qui a été dans la commission parlementaire qui défendait bec et ongles les biocarburants français, mon brave monsieur, qui sont meilleurs que les biocarburants d'ailleurs. Bref. Et c'est un de ceux qui notamment appuie Notre-Dame-des-Landes aussi, Stéphane Le Foll, parce que pour Notre-Dame-des-Landes, la grande idée de faire ce barrage sert avant tout à arroser...
Sivens.
La grande idée de faire ce barrage sert avant tout à arroser du maïs qui va servir avant tout à faire des biocarburants. Donc on voit qu'il y a quand même un lien très fort.
C'est ça, c'est toujours ces liens-là. L'écotaxe, vous avez entendu parler, il n'était pas con, il n'était pas pour.
On l'a enlevé.
Voilà. pour l'agrandissement des élevages, mais il n'y a pas de problème, vive la ferme de 1000 vaches qui est soutenue par la FNSEA. Donc c'est là aussi, et donc on va en revenir un petit peu quand même à leurs solutions un peu à long terme, en tout cas vous les visez qu'ils peuvent avoir sur le long terme. Alors déjà, c'est de baisser la lourdeur administrative.
Pourquoi pas ?
Hein ?
Pourquoi pas ?
Pourquoi pas ? Augmenter la production. Là, on retombe aussi dans une logique qui est quand même assez particulière.
Bah, productiviste, quoi.
C'est ça. Sur le long terme, quand même, ce qu'on entend beaucoup, c'est de diminuer, en fait, les prix de fabrication, en fait. D'où l'industrialisation, en fait, la ferme des 1000 vaches, etc. C'est pour baisser le coût, parce que leur optique, c'est de pouvoir concurrencer les autres pays.
Puis du coup, ils veulent aussi qu'on enlève, je suppose, les contraintes environnementales. C'est-à-dire,
ah, mais oui, oui.
Ils peuvent mettre ce qu'ils veulent où ils veulent.
Ah, mais oui, oui. C'est assez. Enfin. Je pouvais pas vous dire tout ce que j'ai trouvé, c'est énorme, hein. C'est un syndicat pourri, mais c'est toutes les connexions qu'il y a entre ce monsieur et plein d'autres gens. Je suis tombé sur un schéma sur les liens qu'il a, en tout cas que lui, il est président de ceci, de cela, et en fait, tu te rends compte que ce personnage-là, il est dans une sphère complète. Et qui donc a une influence sur les plus haut placés, quoi.
C'est un peu le Gérard Collomb de l'agroalimentaire. C'est-à-dire qu'il est président de plein de choses, il est partout. Gérard Collomb, il est partout.
C'est exactement ça. Et après, sur la FNSEA, elle est aussi c'est elle qui détient quasiment toutes les je suis désolé, j'ai oublié.
Chambre du commerce, chambre d'agriculture.
C'est ça. Ouais. Les chambres de l'agriculture, c'est eux. Ils sont quasiment partout.
Mais je crois qu'ils font 70 ou 80% aux élections ce qui devrait être appelé les paysans, mais qui s'appelle maintenant exploitants agricoles. Déjà, on voit bien le mot exploité et non pas paysan, c'est qui fait partie de la vie du pays et du paysage. Exploitant agricole, ça veut bien ce que ça veut dire, on exploite la terre. Donc, et oui, je crois qu'ils font 70 à 80%, ce qui est énorme. Hein.
Enfin, c'est énorme.
Ils sont ultra majoritaires partout, quoi.
C'est ça.
Parce qu'en fait, ils ont créé la FDSEA, qui sont les subdivisions départementales de la FNSEA. Parce qu'en fait, on leur reprochait d'être uniquement centralisés au niveau national. Donc, ils ont créé les FDSEA pour décentraliser. Mais en fait, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. En réalité, on voit bien que Xavier Belin, il a une mainmise, un poids énorme. Oui, oui. Et il suffit qu'ils disent c'est blanc, et c'est noir, c'est noir.
Et
quoi.
C'est enfin, tout là, en fait, où on tombe après dans le conflit d'intérêts. En fait, ce monsieur, enfin,
c'est un patron, en fait.
Oui.
Clairement, c'est pas un salarié agricole, c'est un patron.
Et alors, il est à côté de ça, hein, il est président de plein d'autres trucs. Enfin, c'est assez incroyable. Et il y a, j'ai lu un témoignage de quelqu'un qui disait quand il vient défendre quelque chose ou quand il donne une position, en fait, on sait plus trop qui il est. En fait, est-ce qu'il est le syndicaliste ou est-ce qu'il est le patron de Profiteol? Sophie Protéol. et c'est très intéressant. Et puis après, enfin, il y a les techniques de la FNSEA. Tu parlais de Sivens, c'est quand même des milices de la FNSEA qui sont allés fracasser la gueule de militants qui sont sur les ZAD. C'est la FNSEA. Ce sont vraiment des techniques.
Les Ragondins aussi.
Les Ragondins qui ont écrasé, qu'ils ont laissé. Enfin, ils sont exploitants. Et c'est effectivement, ils se positionnent en tant qu'exploiteurs hein, du monde animal, du monde végétal, de tout en fait. Hein,
ce qui est un peu étrange avec la FNSEA, c'est que dès l'origine, c'est un syndicat qui, de toute façon, se place en dehors, on va dire de la solidarité et des choses comme ça. Parce que par exemple, quand la sécurité sociale est mise en place, l'ancêtre de la FNSEA refuse que les paysans adhèrent à la sécurité sociale sous prétexte que être paysan, c'est pas comme être ouvrier. Et c'était un truc où tout le monde disait, mais si, les ouvriers, c'est des paysans, c'est un peu les ouvriers des campagnes, quoi. Et c'est leur syndicat qui refuse l'entrée dans la sécurité sociale. Or, aujourd'hui, une des revendications de beaucoup de paysans et d'exploitants agricoles, comme ils disent eux-mêmes, c'est de pouvoir avoir accès à une sécurité sociale moins chère et à pouvoir soigner. Or, s'ils avaient, dès le départ, adhéré au système de sécurité sociale, ils seraient pas avec ces difficultés qu'il y a aujourd'hui. De la même façon, la FNSEA, elle a toujours appuyé l'agro, ce qu'on appelle l'agro-business. Le fait de s'endetter pour avoir toujours le top du top, c'est-à-dire vous achetez un tracteur, vous êtes dans un tout petit tracteur, on vous envoie un qui fait 4 fois ce que vous avez besoin, puis vous prenez des dettes sur 10 ans, puis le hangar, on vous le paye sur 40 ans. Ce qui fait qu'ils ont surendetté leurs adhérents, parce qu'il faut dire ce qui est. Et aujourd'hui, en fait, dans les revendications, on se rend compte que l'une des premières choses qui étouffe les paysans, c'est l'endettement. Or, la FNSEA a toujours appuyé cette solution-là. Donc, c'est complètement incohérent, en fait.
En fait, c'est exactement ça. C'est que quand on lit les choses un petit peu, et puis enfin, c'est aussi la réponse que la Confédération paysanne a donnée, c'était je vais vous la lire quand même, c'est on ne peut pas vouloir attaquer les marchés des pays tierces et en même temps vouloir protéger les siens. C'est exactement ça, c'est-à-dire que, mais ça me rappelle un peu tous, c'est-à-dire que le monde bourg avec son truc Made in France, c'est la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'on veut bien aller exploiter et c'est-à-dire prendre les marchés des autres pays, hein, parce que genre Xavier Belin, il aime beaucoup l'Afrique.
Il a été mis en accusation par une association à une époque et il s'en était sorti par rapport aux poulets avariés qui vendaient, c'était des poulets congelés qui vendaient moins cher que les poulets africains sur place. Et il y avait toute une partie qui avait rendu les gens malades parce que la chaîne du froid avait été rompue. Et lui, il avait dit, oh, mais j'y suis pour rien, c'est pas moi. Alors qu'en fait, il était partie prenante de tout ça parce qu'il était président d'une énième.
Effectivement, président d'une association, enfin, d'un collectif, je sais pas comment on peut appeler ça, autour de la Méditerranée, parce que pour lui effectivement c'est, on va le dire vraiment, c'est un marché en fait, demain en fait. Donc c'est, renseignez-vous, parce que là aussi je voulais, enfin je veux pas faire trop long parce que l'idée c'est pas ça, mais c'est sur le traitement médiatique de tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand on a parlé de ces mouvements de grève et de blocage des paysans, des exploitants agricoles sur les plateaux de télé, c'est quand même assez énorme. On n'entendait que le son de la FNSEA, donc un ton très libéral et en même temps très franco-français.
On leur a opposé personne, en fait. Il y a d'ailleurs, il y a des tas de témoignages à chercher sur Internet de paysans qui sont sortis du système FNSEA sans forcément sortir de l'agriculture intensive, faut le dire, mais simplement en rationalisant différemment, en refusant les intrants obligatoires qu'on leur impose, parce que c'est aussi ça qui fait qu'ils sont surendettés et qui disent, mais on s'en sort 10 fois mieux que quand on suivait les conseils de notre syndicat quand même. C'est là que ça devient intéressant, c'est que c'est là que tu vois ce que tu disais entre le patron et l'exploitant agricole. On sait plus trop qu'est-ce qu'il fait, quoi.
C'est ça, quand tu sais que le mec il est dans la semence, etc. À un moment donné, lui, enfin, c'est aussi une part de business en fait pour lui, quoi. Donc c'est, enfin, renseignez-vous, enfin, amusez-vous un petit peu à faire des recherches sur ce personnage, parce que vraiment c'est.
Et ça explique pourquoi la FNSEA ne s'attaque pas de front à Michel-Édouard Leclerc, à la famille Méliès, enfin, qui tient au champ, parce qu'en fait, leur dirigeant est un pote. C'est un grand patron.
C'est de la solidarité.
Chiffre d'affaires de 7 milliards, c'est énorme. Hein. Et c'est-à-dire que ça le met au même niveau.
C'est de la solidarité de classe. Hein. Les bourgeois sont solidaires.
Et donc on comprend mieux pourquoi ils ne s'attaquent pas, ils ne demandent pas à aller s'attaquer à la grande distribution, tout ça. Mais que c'est là que ça interroge beaucoup sur les modes d'action.
Oui, sur les modes d'action et tout. Enfin, et puis les gens qui défendaient un peu le point de vue de la FNSEA et tout. Enfin, c'est une vision qui est pour moi, mais à rejeter à mort. Quoi. Mais sauf que ça, on ne vous le dit pas. Surtout que au sein même des paysans ou de l'agriculture et tout ça, on vous parle même pas des opposants, parce que la Confédération paysanne par exemple n'est pas du tout d'accord sur les solutions que la FNSEA propose. Ils sont d'accord sur le constat, mais rien d'autre, quoi.
Ah bah oui. Bah
c'est donc c'est là aussi où c'est problématique, c'est-à-dire qu'on vous dirige, on nous dirige, parce que je regarde aussi la télé, hein, on nous dirige en fait comme si de rien n'était, mais sauf que c'est déjà très politique la manière dont on va vous poser ces problèmes de l'agriculture et les solutions, quoi.
Et pour être très clair, si vous voulez aider vos petits paysans et vos petits producteurs du coin, eh ben renseignez-vous pour savoir s'il n'y a pas une AMAP autour de chez vous, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Renseignez-vous si vous n'avez pas un marché avec des producteurs qui vendent en direct. Et là, vous les aidez directement. Ouais. C'est vachement plus efficace que d'aller...
Ou ils font de la vente aussi à la ferme.
Et ouais, ou des fermes qui vendent. Parce que là, vous avez directement, l'argent va directement aux producteurs
c'est
sans
ça,
passer par des tiers.
Voilà. C'est ça.
C'est une très bonne solution.
Voilà, enfin, faites des recherches sur ce personnage, il est haut en couleur. Et ben voilà, je sais pas.
Vous voulez
ouais, on passe à la ZIC. Allez, on passe à la ZIC. Radio Canu. Non, non, t'étais ni sur FIP, ni sur Radio Classique. C'est Radio Canu et c'est la causerie. Et donc, on vient de s'écouter, pardon, ça me met tout en joie, ce classique.
Ben oui.
On vient de s'écouter un truc super neuf.
Tout nouveau, tout récent.
C'était donc du Beethoven. C'était concerto pour piano et orchestre numéro 3. Et c'était interprété... Oui, par le Philharmonique de Berlin.
C'était un extrait.
Oui, c'était un extrait, mais enfin voilà.
Voilà, mais c'était bien.
Bah moi j'aime beaucoup. Et ben on va continuer. Bah c'est Fab, tu veux nous parler, oui. Tu veux nous parler d'un truc. Moi on m'a dit que c'était pas vrai. Hein.
Que les moins. Ouais,
c'est d'après Claude Allègre, il m'a dit c'est pas voilà, vrai. Tu veux nous parler du réchauffement climatique.
Oui, je vais vous parler du réchauffement climatique parce que vous savez que il y a quelques temps on avait parlé dans la causerie de la neige artificielle dans les Alpes et des dégâts que ça produisait tout ça et on. Et j'avais dit à l'époque qu'il y avait une mission qui avait été lancée, qui s'appelait Climalp, et qui servait en fait à regarder un petit peu le climat dans les Alpes et pourquoi il y avait de moins en moins de neige, tout ça, tout ça. Donc ils ont rendu leur conclusion en fait. C'est une étude qui a porté sur 5 ans. Hein, ça s'est pas fait non plus en un an. Et en fait, ils ont découvert de façon assez stupéfiante que le réchauffement climatique en France est d'à peu près plus 0,8 voire 0,9 degrés par rapport à 1990. Ça, c'est le réchauffement climatique moyen sur la France et annuel. Et en fait, dans les Alpes, il est de plus 1,9 degré, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de 2 fois le réchauffement qu'on peut constater, on va dire, à Lyon, quoi, par exemple, ou sur la plaine de l'Ain, enfin, où vous voulez.
C'est embêtant quand il y a de la neige, quand même.
Ben voilà, et c'est justement ce qui se produit, c'est que ça explique pourquoi il y a de moins en moins de neige dans les Alpes et pourquoi on a de plus en plus de difficultés à avoir de l'enneigement massif dans les Alpes. Et ces scientifiques, en fait, ils se sont penchés sur le phénomène parce que ça a un double effet. Le premier, c'est qu'il y a moins de neige. Et le deuxième, c'est qu'en fait, ça met en cause l'activité touristique des Alpes. Et qu'en fait, de plus en plus, il y a des stations qui sont obligées de ne quasiment pas ouvrir de la saison. Et donc, il y a du chômage qui se produit parce que les stations de ski, il faut rappeler que ça fait, c'est la première activité dans la région grenobloise après l'industrie. Hein, donc, il y a l'industrie, puis derrière, c'est les stations de ski. Donc, c'est quand même assez énorme. C'est la première activité de loisirs dans la région grenobloise. Donc, c'est assez énorme et ça, c'est un certain nombre de salariés. Et on estime, d'après les chiffres que j'ai vus, que ça fait vivre entre 600 000 et 1 million de personnes le marché de la neige. Ah ouais. Donc, c'est assez important. C'est pas anodin, quoi. Parce qu'il y a les gens qui sont dans les stations, il y a les transporteurs routiers, ceux qui emmènent les bus.
Mais c'est ça, t'as l'action directe. Et
voilà, il y a tout ce que ça entraîne. Donc on estime que ça fait, c'est à peu près 1 million de salariés en tout qui vivent directement ou indirectement du loisir d'hiver. Donc le Climalp, ils ont été chargés de trouver pourquoi il y avait de moins en moins de neige. Alors leur conclusion n'a pas du tout plu, parce qu'en fait c'est des scientifiques, et puis vous savez, les scientifiques des fois ils sont pas faciles à acheter, et c'était un peu le cas de ceux-là, c'est-à-dire qu'ils ont pas eu trop envie d'être achetés, puis ils ont rendu leur conclusion telle que. Alors en fait, c'est pas très compliqué à comprendre le phénomène qui se passe, c'est un phénomène qui s'auto-alimente. Alors je vais vous expliquer. Le fait que les Alpes se réchauffent fait que la neige fond plus, d'accord? Quand la neige fond plus, la couche d'air qui est au-dessus de la neige se réchauffe automatiquement. Parce qu'en fait, la neige renvoie les rayons du soleil, elle est blanche, alors que le sol, lui, absorbe les rayons du soleil. Et donc, en fait, les nuits sont plus chaudes que les jours, que quand il y a de la neige, vous voyez. Donc, la couche d'air au-dessus de la neige, là où il devait y avoir de la neige, se réchauffe. Comme elle se réchauffe, on a moins de neige. Parce que pour qu'il y ait de la neige, il faut que l'air soit froid. Vous voyez, donc c'est une espèce de cercle vicieux, et en fait le réchauffement climatique se retrouve démultiplié dans les Alpes par ce phénomène-là. C'est un effet un serpent qui se mord la queue. Le réchauffement climatique de plus 0,8 degrés a fait qu'il y avait moins de neige. Le fait qu'il y ait moins de neige a entraîné une accélération de la fonte des neiges. Et voilà, vous avez une espèce
et
de cercle. Donc, comme ils disent dans leur conclusion, sauf si on avait une minière glaciaire qui viendrait à se mettre en place, parce que c'est aussi d'après eux une possibilité par rapport au soleil. Ça, mais bon, ça c'est déjà des gens qui misent là-dessus, mais il faut pas trop rêver. Mais ils disent, si on continue comme ça et dans cette espèce de rythme-là, d'ici 20 à 30 ans, on ne pourra plus skier en dessous de 3800 mètres dans les Alpes. Pas être plus clair que ça.
Ça fait haut quand même.
Et donc, ça veut dire qu'on pourra plus skier parce qu'en fait, il n'y a rien qui monte aussi haut quasiment. C'est les glaciers, en fait. Donc, c'est quand vous êtes sur les glaciers. Donc, ça veut dire que toute l'activité de sport, de loisirs d'hiver risque de disparaître. Alors, oui.
Non, mais je. Alors bon, effectivement, pour le travail, pour les travailleurs, c'est une mauvaise idée, mais je me dis, quand même, quand on sait le massacre que c'est quand même le sport d'hiver.
Mais j'y viens, parce qu'en fait, le problème, c'est que ça, c'est l'aspect économique. Okay. Mais eux, après, dans leur rapport, justement, c'est là que je disais qu'ils ne se sont pas fait acheter, ils sont allés beaucoup plus loin que ça. C'est qu'en fait, ils expliquent que le système neigeux, ce qu'on appelle le système neigeux, c'est-à-dire le cycle de la neige, il a aussi une importance pour l'eau douce, parce qu'en fait, une grosse partie de la neige qu'ils font, elle finit notamment dans le Rhône. Eh oui, parce que le Rhône, il se remplit pas tout seul. Donc, c'est des milliers de torrents qui descendent de la montagne et qui vont faire une partie du Rhône, une partie de l'eau qu'il y a dans le Rhône. Et dans plusieurs autres rivières qui prennent leur source dans les Alpes ou près des Alpes. Et de la même façon, ils disent, c'est ça aussi un effet, c'est qu'en fait, les Alpes sont en train de redevenir très, très vertes. C'est-à-dire que la végétation monte. Mmh. Et que normalement, dans les Alpes, eh ben, la végétation, elle monte pas. Donc, ça va avoir un impact sur toute la faune et la flore des Alpes. Parce qu'en fait, eh ben, il y a des animaux qui s'étaient adaptés à une certaine faune et une certaine flore, mais ils sont obligés de monter plus haut, ou alors ils s'adaptent à la nouvelle configuration et du coup ils prolifèrent parce qu'ils sont vachement mieux, il y a plus à manger et ça va vachement bien. C'est le cas de certaines marmottes par exemple qui, bah, du coup, elles trouvent ça vachement cool, elles, qu'il y a moins de neige et que ça monte plus haut parce qu'elles peuvent manger plus longtemps. Et elles font plein de. Parce que par exemple, ils ont
des. Saleté de marmottes.
Et bah, ils ont démontré un truc tout bête, c'est que les marmottes normalement ont une portée par an et à certains endroits dans les Alpes, comme en fait il n'y a plus de neige autant abondamment qu'avant, elles ont deux portées. Ouais. Donc et bah, automatiquement, elles font plus de petits, donc elles sont plus nombreuses. Donc voilà. Et d'ailleurs, ils disent que si, ce serait bien que le loup revienne parce que c'est un prédateur de la marmotte. Et que, voilà. Enfin bref, ils sont très drôles dans leur. Enfin, ça n'a pas du tout plu, hein, vous pensez bien. Voilà. Et surtout, ben, ils ont posé ça. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que tout de suite, les réponses scientistes et productivistes sont apparues. Alors, les scientistes, ils ont dit, on va créer des canons à neige qu'on va alimenter avec de l'azote liquide pour pouvoir faire de la neige. Ouais. Alors, j'ai envie de te dire, mon gars, qu'il va te falloir un paquet d'azote liquide et qu'en plus, ta station de ski, elle ressemblait à une usine chimique assez rapidement. C'est un peu dommage quand même, mais bon.
Oui, mais voilà. on ne freine devant rien pour faire du pognon.
Ah non, il y a mieux. Il y a mieux. Ah oui, il y a mieux. Il y en a un qui a dit, mais c'est pas grave, on pourrait importer de la neige de Sibérie. Bah, ouais. Donc voilà. Donc,
l'important, c'est la neige. On s'en fout d'où elle vient. Voilà, c'est quand même vachement international. Non, mais je veux dire.
Je trouve ça merveilleux. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ce qu'ils expliquent, c'est que. Et non, il faut déjà commencer à penser à la reconversion.
Ouais.
Parce que comme c'est parti. Et alors, en plus, ils disent que à la marge, le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui vont au ski. Qui montent en voiture, qui montent avec des bus, qui surchauffent leurs appartements au ski parce qu'ils ont froid et qu'ils veulent 25 degrés et qu'il faut faire 25, et ben ça réchauffe aussi les Alpes. Mmh. Et qu'au final, ça a un impact aussi sur le réchauffement. Et qu'au final, ben, c'est encore un cercle vicieux. Parce que du coup, comme les Alpes sont très enclavées et que notamment les vallées alpines, vous savez, on dit que dans la vallée de Grenoble, c'est une des vallées les plus polluées, oui, c'est plus pollué qu'à Lyon. Ouais. Ben, comme c'est très enclavé, et ben le réchauffement climatique il reste et ça réchauffe et ça réchauffe et ça réchauffe. Donc en fait ils expliquent déjà que si on voulait commencer par avoir une action rapide, il faudrait que les gens viennent en train. Vous voyez ? Très bien. Voilà. Et qu'on limite les transports en bus avec des bus extrêmement peu polluants. Alors, ils donnent l'exemple du bus électrique parce que voilà, je suis pas forcément en accord avec eux par rapport au nucléaire, mais ça, c'est notre problème. Mais un bus qui n'émet pas de CO2 direct à l'endroit où il roule et que les gens se disciplinent, comme ils disent, et limitent leur visite à 3 jours. Ne pas venir une semaine ou deux au ski. Voilà.
Mais c'est pas possible.
Alors, comment je vais faire,
j'ai pris un forfait à la semaine. Enfin.
Moi, j'ai pris un forfait à Courche. voilà. Ah, bon. Et donc, c'est intéressant parce que du coup, voilà, c'est scientifique qui était au départ. Les gens pensaient qu'ils allaient pas du tout rendre un rapport intéressant. Ils ont rendu un rapport, au contraire, très intéressant. Et en fait, un vrai rapport scientifique avec des données et tout, voilà. Et donc, ils expliquent, pour finir, parce que je terminerai là-dessus, qu'en plus, il y a un phénomène très drôle, c'est que la neige artificielle aujourd'hui est faite majoritairement avec des retenues qui ont été créées artificiellement, on en avait parlé, on a fait des mini-barrages, machin. Et en fait, ces mini-barrages, ils contenaient quoi ? Ben, ils contenaient l'eau de la fonte des neiges.
Mais vu qu'il n'y a plus de neige.
Vu qu'il n'y a plus de neige, ben, il n'y aura plus d'eau dans les mini-barrages. Et donc, ça va résoudre le problème, il n'y aura pas de neige artificielle.
Ben, voilà. Ce qu'on peut donc conseiller quand même aux gens qui partaient au sport d'hiver, c'est garder vos bâtons. Pour la marche.
Faites de la marche. voilà. Non, mais voilà, non, c'était intéressant parce que on en rigole, mais c'est quand même hyper alarmant. Mais... Ça démontre quand même que le réchauffement climatique s'accélère de façon assez dramatique parce qu'au final, c'est ce que disent ces scientifiques, c'est que on commence aujourd'hui à vraiment voir l'accélération se mettre en place. C'est-à-dire ce que craignaient les scientifiques du GIEC il y a quelques années, bah, en fait, on le voit aujourd'hui. On le voit notamment sur des zones comme les Alpes.
Oui, c'est ça. En fait, il y a des zones un peu plus spécifiques où c'est intensifié. En fait,
le réchauffement climatique, c'est une moyenne mondiale.
Oui, c'est ça.
Mais il y a des zones qui vont plus se réchauffer que d'autres. Donc automatiquement, il y a des endroits où vous allez avoir des montées qui seront de plus 1, plus 2, plus 3, plus 5, plus 6 degrés. Et là, c'est hyper dramatique. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que les scientifiques qui travaillent aujourd'hui sur la Sibérie occidentale, je crois que c'est même la bonne, et qui justement doivent rendre leur rapport dans 2 ans, ont décidé d'en rendre un pré-rapport en avance parce que ce qu'ils ont observé est tellement alarmant qu'ils ont préféré le rendre maintenant parce que vous savez qu'il y a la fameuse COP15 là qui va se tenir, les chefs d'État qui vont tous nous sauver bien sûr. Et en fait, ils ont voulu rendre leur pré-rapport avant et ils expliquent que la Sibérie occidentale se réchauffe 4 fois plus vite que ce qu'on imaginait. C'est-à-dire que aujourd'hui, la Sibérie est quasiment plus gelée à certains moments de l'année où elle était, il y a encore 10 ans en arrière, totalement gelée. Et ces scientifiques-là s'alarment parce qu'en fait, vous avez sous la Sibérie du gaz méthane qui est retenu et qui est beaucoup plus calorifère que le CO2, c'est-à-dire qui retient la chaleur, voilà, et que si ce gaz se libère, ça va encore accélérer le réchauffement climatique. Et les scientifiques aujourd'hui tirent la sonnette d'alarme. Le problème, c'est que personne ne les écoute et que c'est un réel problème parce que, très clairement, oui, on va survivre, l'être humain, mais on ne va pas tous survivre, c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les dégâts climatiques vont faire qu'on va vers des grandes catastrophes et que on est normalement aujourd'hui civilisé et qu'on ne devrait pas avoir l'envie que des grandes catastrophes arrivent et qu'on laisse mourir des milliers, des milliards d'êtres humains sous prétexte que, ouais, c'est pas grave, c'est le réchauffement climatique. Donc voilà, eux, ils tirent la sonnette d'alarme, ils disent, notamment, ils appellent, il y a un appel de 450 scientifiques qui appellent à créer le statut de réfugié climatique parce que ça n'existe pas.
Ça fait quelques temps que ça en discute.
Tout à fait. Et que l'ONU, bloque, c'est notamment la France est contre, la création du statut de réfugié climatique pour dire que, il y a des régions complètes qui vont devoir se vider de leurs habitants, notamment le Bangladesh, parce qu'une partie du Bangladesh va se retrouver sous l'eau. Donc voilà, et qu'il va falloir qu'on accepte de redistribuer les populations, parce que si on ne le fait pas, on condamne juste à mort des semblables, quoi. Voilà, et je trouve que c'est quand même, c'est en partant des Alpes, vous voyez, on arrive à la situation globale, mais voilà. Mais c'était pour dire qu'un exemple typique du réchauffement climatique, c'est les Alpes aujourd'hui. Voilà. Est-ce que c'était clair ?
Ah bah oui.
Oui. Vous avez des questions ?
Non mais je sais pas. Enfin, je crois que j'ai rien à dire.
Non mais
c'est hyper intéressant et que en même temps, c'est terrible parce que je suis pas. Enfin, je pense que nos politiques s'en tapent. Mais
parce qu'ils sont proches des puissants. Et les c'est puissants, bien, alors, eux, s'en foutent.
Mais c'est justement, je pense que c'est là où effectivement ça va être encore une fois, mais je pense de toute façon qu'il n'y a que ça, c'est la société, celle qui est en bas là, qui doit se bouger le cul et qui doit faire fonctionner la solidarité en fait.
Écoutez
c'est,
Naomi
Klein. Il faut foutre la pression en fait, sur tous les plans.
Moi je vous conseille vraiment d'écouter Naomi Klein, là. Je trouve qu'elle a une très très bonne vision, c'est que sans révolution des peuples, on n'aura rien face au changement climatique. Parce qu'en réalité, les grandes industries, elles n'ont pas envie de changer, parce qu'ils se font du fric et qu'ils en ont rien à faire et qu'après eux le déluge. Et que le problème, c'est que voilà, là on est face à une situation assez catastrophique. Et c'est pas pour dire faire du catastrophisme ou tout ça, c'est juste pour montrer que la lutte des classes, elle est là aussi, quoi. Et elle se fait aussi sur la survie des êtres humains au travers de la survie de la planète. Et qu'au final, on la voit encore bien se dessiner là, comme ça, quoi. Voilà.
C'est ça.
Vous voyez, il y a des gens qui veulent importer de la neige de Sibérie. Quand on a ces idées-là, c'est qu'on est vraiment déconnecté, quoi.
Et ce qui est toujours très intéressant, c'est qu'on est prêt à importer à peu près n'importe quoi.
Sauf des gens.
C'est ça. Sauf qu'on ne veut absolument accueillir personne. C'est quand même, c'est encore une fois la place de l'être humain dans cette société. On le voit où elle est, en fait. Bon, allez.
Que restera-t-il sur la terre dans 50 ans? On empoisonne les rivières, les océans. On mange des hydrocarbures. Que sais-je encore? Le Rhône charrie du mercure, des poissons morts. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux? Le monde a perdu la boussole, qu'a-t-il gagné? Des plages noires de pétrole pour se baigner. L'atome va régner sur terre comme un seigneur. Qu'en ferons-nous? C'est une affaire qui me fait peur. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux? À peine le malheur des hommes est-il moins grand que déjà pourrissent les pommes nouveau temps. Enfant, enfant, la terre est ronde. Criez plus fort pour que se réveille le monde. S'il n'est pas mort, pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseau?
Et oui, c'était Jean Ferrat dans un de ses derniers réenregistrements, peu de temps avant de mourir, ce qui explique la voix chevrotante. Mais il tenait à refaire une version de cette chanson, dont les paroles, je trouve, sont malheureusement d'actualité, surtout qu'elle a été écrite au départ dans les années 60. Oui. Et vous voyez, c'est un peu flippant. Voilà. Donc, voilà. Et ben donc, Jean-Yves, tu voulais nous lire un communiqué en lien avec ce qui se passe au Portugal en ce moment.
Ouais, c'est ça. Parce que voilà. Parce qu'on s'était dit ce soir, on va faire un petit peu des choses un peu de l'actualité, en fait. On s'en fout, on n'est pas un journal, mais on a le droit de le faire, quoi. Attends, non mais attends, t'es qui, quoi? Non, pardon, et on va reprendre un peu, pardon, je vais reprendre mes esprits. Et donc au Portugal, effectivement, je ne sais pas si vous êtes au courant, en fait le gouvernement a, comment dire, restreint l'accès libre à l'avortement, ouais, au Portugal, parce que, bah, vous savez, c'est la crise, et que, bah, qu'encore une fois, ça démontre bien que la crise sera toujours un bon moyen d'enlever des droits aux femmes, qui sont à peu près quand même 50% de la planète. Et donc voilà. Donc je vais vous lire le communiqué, en fait, qui a été signé par par plusieurs associations, en fait. Il y a Femmes Solidaires, mais il y a il y en a plein. Il y a le collectif contre féministe contre le viol. Il y a plein d'assos. Donc voilà, donc c'est le communiqué de presse de Féministes en Mouvement. Avortement hier, l'Espagne, aujourd'hui le Portugal et demain. Le 21 juillet, le Parlement portugais a voté une loi restreignant l'accès des femmes à l'avortement, marquant ainsi un recul sur le terrain de la libre disposition de son corps. Nous condamnons le vote de cette loi inique, qui non seulement marque un retour en arrière, mais est aussi dangereux pour la vie de milliers de femmes portugaises. Alors que les Portugaises pouvaient depuis 2007 avorter librement et gratuitement, elles devront dorénavant payer tous les actes médicaux liés à l'interruption de grossesse et se soumettre à des entretiens préalables qui visent ni plus ni moins à les empêcher d'avorter, entre parenthèses, en détaillant par exemple les allocations auxquelles elles pourraient prétendre en cas de naissance. Fermez la parenthèse. À l'instar de l'Espagne en 2014, le Portugal est passé d'une législation progressiste à une législation réactionnaire qui cède sous le poids des conservatismes et considère les femmes comme des êtres inférieurs qui ne sauraient prendre une décision de manière libre et éclairée. Nous le rappelons encore et toujours. Une femme qui veut avorter sait ce qu'elle fait. Tenter de l'empêcher de le faire est une violence. Les avortements clandestins tuent 47 000 femmes par an dans le monde. Sur 46 millions d'avortements réalisés chaque année, 20 millions le sont dans des conditions illégales et dangereuses. La conséquence, c'est que toutes les 9 minutes, une femme meurt des suites d'un avortement clandestin. Ce sont les chiffres de l'OMS. Le Portugal, avec sa nouvelle législation, ne va faire qu'alourdir le bilan. Restreindre le droit d'avorter, c'est donc pousser des femmes dans la clandestinité. Les plus riches iront avorter dans les pays où c'est autorisé. Les autres devront s'en remettre aux méthodes à risque dont on connaît trop bien les conséquences sanitaires désastreuses. Nous nous inquiétons des nombreuses menaces qui pèsent sur l'avortement en Europe. C'est la Pologne qui a adopté en 1993 une législation drastique en la matière et qui n'autorise l'avortement qu'en cas de viol ou de risques vitaux pour la femme. C'est l'Espagne qui a récemment restreint l'accès à l'avortement pour les mineurs, après avoir échoué dans leur tentative de la restreindre pour toutes les femmes. C'est l'Irlande qui, malgré de très timides tentatives d'évolution législative en la matière, continue de l'interdire, condamnant ainsi des femmes littéralement à la mort. C'est l'Italie, dénoncée en 2012 par le Conseil de l'Europe, où en moyenne 70% des médecins, voire 90 à 95% selon les régions, sont objecteurs de conscience, évoquant l'objection de conscience pour ne pas pratiquer d'avortement. C'est la Hongrie, dont l'actuel gouvernement finance des campagnes anti-avortement. C'est Malte qui l'interdit en toutes circonstances. Les Européennes sont inégales en la matière. Allons-nous tolérer cette situation encore longtemps? L'Union Européenne va-t-elle continuer de faire la sourde oreille sur ce sujet? Le 17 janvier, alors que nous célébrions les 40 ans de la loi autorisant l'avortement en France,
Nous avons pris l'engagement de nous battre pour que l'avortement soit légalisé à l'échelle de l'UE, de l'Union européenne, que toutes les femmes soient libérées du poids d'une grossesse non désirée partout. Le droit des femmes à disposer de leur corps ne doit pas être l'angle mort des politiques européennes. Voilà, je vous mettrai le lien du communiqué de presse sur le blog. Faites-le savoir autour de vous aussi, parce que comme ça s'est passé en Espagne l'année dernière, c'est là aussi la solidarité. Il faut absolument, enfin selon moi, soutenir ça, et qu'on soit un mec ou une meuf, hein. On a le droit de soutenir ça. Et donc voilà, enfin, je sais pas si vous aviez.
Moi, j'ai pas la phrase exacte, mais je crois que c'est Simone de Beauvoir qui disait: il suffira d'une crise ou d'un malheur ou d'une guerre pour que le droit des femmes recule comme jamais il n'a reculé. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir.
C'est exactement ça. Voilà. Le patriarcat se cache
toujours. Pas bien loin.
Non, pas bien loin.
Mais heureusement, on a la tueuse du Bois Joli.
On a la tueuse du Bois Joli. Allez, on va l'écouter. Qu'est-ce qu'elle nous dit?
Je suis la killeuse du Bois Joli. Le roi est mort, le roi est mort. Je tue l'homme, je le coupe en morceaux. C'est un trou du cul qui s'accroche au pouvoir comme un parasite.
La peur.
Vous êtes bien à la causerie sur Radio Canu. Et on vient de s'écouter Le Roi est mort de Billy the Kick. Issu d'un album, c'est
Artemis Révélation.
Je vous le conseille vraiment. Enfin, il y a des chansons. On en avait d'ailleurs utilisé une pour l'interview avec Mélusine qui porte sur l'inceste. C'est, enfin, vraiment, c'est un album waouh.
Magnifique.
Oui. Et par contre, à côté de ça, il y en a aussi une sur les dildos. Vous savez? Les vibros. C'est un hymne aux vibromasseurs aussi. Enfin bon, je vous la mettrai à l'occasion. Hein. Enfin bon.
Le dildo ? Non, la musique.
ça, pas à l'antenne. Alors, on va terminer par un quatrième sujet parce qu'en fait, il n'y a pas de brève.
Hein. Non, donc voilà.
Voilà, c'est le repos des militants.
Voilà. Il se passe rien dans le monde.
Non, c'est. Donc, voilà, on c'est l'a pas... bien vu en Turquie, il ne se passe rien.
Et voilà.
Mais toi, tu voulais parler, oui, de.
Oui, alors moi, je veux parler de quelque chose de. Ouais, Vincent Lambert. Pardon. Alors, pas de lui, hein, parce que, bon, tout le monde connaît l'histoire de cet homme qui s'est retrouvé en état végétatif, puis en état de mort cérébrale. Enfin, pas de mort cérébrale, d'état végétatif total, c'est-à-dire que, bah, il a autant de réactions qu'une plante verte, malheureusement pour lui. Et du coup, sa famille, vous savez, sa femme et ses deux sœurs, disent que cet état-là est inadmissible et demandent depuis maintenant, je crois, 7 ans, qu'on puisse le débrancher, le laisser mourir dignement, quoi, et qu'il arrête d'être dans cet état-là. Et en fait, ce qui s'est produit, c'est que il a fallu aller en justice parce que il a pas de bol, Vincent Lambert, en plus d'être dans cet état-là. C'est qu'en plus, il est de famille ultra-catholique. Et ce sont des catholiques ultra vraiment, c'est-à-dire des gens qui font la messe en latin, tout ça, tout ça. Et depuis, en fait, son accident, sa famille s'oppose à ce qu'on puisse le laisser mourir dignement. Et ils ont essayé tout, hein, oui.
Et c'était pas d'ailleurs, enfin, sa volonté à lui.
Oui, oui, tout à fait.
C'était alors,
Je veux dire. Alors, je vais un peu parler de lui. Il était infirmier.
Ok.
Donc, il était très, tout à fait au courant de tout ça. Et il a toujours dit que s'il se retrouvait dans un état
végétatif
ou dans un état de comme ça, ou même il disait, même s'il avait une maladie incurable et qu'il tombait dans le coma, il demandait à ce qu'on abrège ses souffrances. Faut savoir quand même que c'était quand quelqu'un qui était du métier, c'est pas, en plus, c'est ça qui est intéressant de voir, c'est quand même quelqu'un qui côtoyait la mort tous les jours. Parce que quand on est dans les hôpitaux, on côtoie aussi la mort, on côtoie pas que la vie. Donc, c'est quelqu'un qui savait, qui avait ce qu'on appelle une vision éclairée des choses. Mais en fait, comme il avait rien écrit, donc je vous conseille à tous de d'écrire, hein, voilà, si vous voulez, parce qu'on ne sait jamais qui après un accident peut venir décider à votre place de ce qui va se produire, et que bah du coup ça ne reposait que sur des discussions avec des amis, des cousins, sa sœur, sa femme, voilà, et ben la famille, donc c'est la mère, le père et le frère s'appuient là-dessus en disant non, il a jamais voulu ça, il voudrait au contraire qu'on essaye de le sauver, blablabla, et ça fait 7 ans qu'ils font des recours en justice pour éviter qu'on laisse mourir dignement Vincent Lambert. Et le dernier était à la Cour européenne des droits de l'homme, qui, l'institution judiciaire la plus haute possible, et qui a décrété qu'on devait débrancher Vincent Lambert, le laisser mourir dignement. Voire même la Cour européenne des droits de l'homme encourageait même à ce qu'on le pose, on le mette dans un état de coma très profond pour qu'il meure dans un sommeil tranquille. Voilà. Sauf que ce sont des catholiques ultra, et comme tout catholique ultra, et comme tout fanatique, à peu près comme les gens de Daesh, hein, vous voyez, c'est à peu près la même engeance, oui. Et ils utilisent des méthodes qui font froid dans le dos, c'est-à-dire qu'ils sont allés menacer de mort les médecins qui s'occupent aujourd'hui de Vincent Lambert, les infirmiers, les infirmières, la famille, la femme et la sœur de Vincent Lambert, leur propre fille, hein, quand même, hein, pour ceux qui n'y arriveraient pas à voir. Ils ont menacé d'enlever, d'enlever Vincent Lambert. Parfois très clair, hein, c'est ce qu'ont dit les médecins. S'il l'enlève, il meurt tout de suite quasiment parce qu'il ne vit, même pas. Enfin, le corps survit que parce qu'il est branché et relié à des machines. Donc si vous le débranchez, voilà. Donc bon, c'est un peu stupide, mais ils ont menacé ça et surtout donc ils ont fait des menaces de mort. Mais de mort, voilà, avec des balles envoyées a priori, hein, d'après ce qu'on commence à savoir, avec des lettres, avec des lettres dans lesquelles on écrit « Je sais où sont vos enfants à l'école », voyez, aux médecins. Donc sous cette pression-là, les médecins ont décidé de ne pas prendre, de ne pas appliquer la décision de la Cour européenne des droits de l'homme et ont remis Vincent Lambert sous perfusion. Donc en fait, ils le nourrissent de nouveau par la sonde gastrique et l'hydratent. Donc c'est-à-dire qu'en fait, eh ben, on le maintient encore en vie, entre guillemets. Je mets des guillemets à vie, parce que pour moi, c'est pas une vie, hein, pour être très clair, d'être dans cet état-là. Ce que je trouve assez hallucinant, c'est que personne... C'est drôle, hein, parce qu'autant, moi j'ai vu beaucoup, par exemple, certains, à droite hein, notamment, parler des fanatiques islamistes. Je dis, oh là 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 là, et tout. Mais alors là, par contre, il n'y a pas un mot sur ces fanatiques religieux-là, qui sont aussi dangereux.
Les fascistes religieux
qui sont qui utilisent des méthodes qui font quand même flipper. Moi, je veux dire, imaginez quand vous êtes médecin, si vous recevez une lettre chez vous qui dit je sais que vos enfants sont dans telle école et si vous voulez les revoir vivants, parce que a priori c'est ça qu'ils ont reçu les médecins, et vous devez laisser Vincent Lambert en vie. On en est là, quoi. Donc moi, j'ai vu la femme de Vincent Lambert, sa sœur aussi, témoigner. Expliquer quelles étaient les méthodes de leur famille, hein. Et la sœur expliquait qu'elle a été élevée dans ce climat-là. Élevée chez des gens qui, par exemple, estimaient que les juifs méritaient le bûcher. Elle dit, ce sont des mots qu'elle entendait, en fait, que, voilà. Et elle dit, voilà, là, on fait comme si c'était normal. Or non, ce sont des fanatiques. Et on est en train de céder face à des fanatiques parce que ce sont des terroristes, comme on dirait aujourd'hui, parce qu'ils font peur. Mais ouais, j'aime pas ce mot-là. Mais
ils utilisent la terreur.
Ils utilisent la terreur, mais j'aime pas du tout ce mot-là. Mais c'est pour dire que il suffit, par exemple, que trois gamins aient échangé sur Facebook, soi-disant, une envie d'attentat sur une caserne et au nom de Allah, pour qu'ils soient arrêtés, machin, menottés et compagnie, qu'on en fasse trois plombes dans les JT. Là, vous avez des gens qui agissent, on sait qui c'est clairement, et il n'y a pas une seule réaction. Je suis pas un fanatique hein, de la police et tout, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est le deux poids deux mesures qui est hallucinant.
C'est ça.
C'est-à-dire que là, on est quand même dans quelque chose qui fait froid dans le dos, et voilà. Donc moi, je voulais juste te dire que les fanatiques cathos me font autant gerber que les autres, et que c'est quand même grave que ce pauvre gars, parce que franchement, je trouve que c'est horrible ce qui lui arrive, en état végétatif, on puisse pas le laisser mourir dignement alors qu'il le souhaitait lui-même. Tout ça parce que quelqu'un croit qu'il y a un monsieur là-haut assis sur un nuage qui préside à nos vies, ça me fait chier, quoi. Et je me dis, c'est triste quand même d'en être là en 2015. Et c'est triste qu'ils emploient ces méthodes-là, quoi. Et qu'on, voilà. Donc ça se dénonce, hein, ces choses-là. C'est ce qu'on fait.
C'est ça, mais enfin, vous connaissez mon goût pour les religions, mais c'est, je trouve que là, de toute façon, c'est une merveilleuse. C'est terrible, hein. Mais c'est une merveilleuse démonstration de leur totalitarisme.
Ah, mais c'est clair. Hein.
C'est-à-dire que, après que ces gens-là, ils soient croyants, ils font bien ce qu'ils veulent. Je veux dire, les vieux, ils font, enfin, je veux dire, personne ne leur empêche. Le problème, c'est qu'il faut que tout soit régi selon leurs règles. C'est quand même du totalitarisme. Et oui, effectivement, hein, que ça soit musulman, que ça soit catho, que ce soit autre, que ce soit bouddhiste, que ça soit raélien, ça me fait gerber, quoi.
Je vais faire deux remarques. La première, c'est que quand il y a un attentat islamiste, appelé islamiste, on demande à tous les musulmans de France de se justifier, de dire que vous n'êtes pas d'accord avec eux. Par contre, là, on ne demande pas aux catholiques de dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et donc, c'est bien la preuve quand même qu'on fait un différentialisme qui est assez dangereux. Et je voudrais juste dire que je suis quand même outré que Marisol Touraine, ministre de la Santé, ne soutienne pas les médecins. Moi, je trouve ça juste dingue, c'est son boulot. Et je suis pas un fan des ministres non plus, mais putain, qu'une ministre ne veuille pas soutenir les médecins en disant « Mais non, vous avez mon soutien en tant que ministre de la Santé, vous avez donc le soutien du gouvernement et de l'État. » Je suis pas étatiste pour deux sous, mais à un moment donné, je me dis quand même, là, il y a quand même quelque chose qui démontre la puissance du lobby catholique, voilà, intégriste en France, parce que c'est un lobby, et qu'il est d'une puissance absolue. On l'avait vu pendant le mariage pour tous, hein, et ben on le voit de nouveau aujourd'hui. Voilà, et c'est un des cas comme ça. Voilà.
Mais, et ça rejoint aussi ce dont on parlait, je crois que c'est la semaine dernière, sur le Puy du Fou, etc. Je pense que de toute façon, ce sont les mêmes franges, ce sont les mêmes milieux, ce sont exactement les mêmes. Donc après, bon, effectivement, est-ce qu'on se dit que c'est normal que ces gens-là puissent absolument être d'une telle manière autoritaire que tout le monde en flippe d'agir, mais je veux dire, c'est quand même dingue. Enfin,
mais moi j'aurais peur aussi, hein,
je veux dire, mais c'est.
J'en veux pas aux médecins. Hein,
je veux dire, tu reçois des balles chez toi, tu reçois des menaces. Ouais, je peux comprendre que t'aies pas vraiment envie de.
Ceux qui se sentent pas soutenus, les toubibs.
Bah, clairement.
Il y a un moment donné, on nous laisse un peu tout seul, là, ouh. Donc, voilà, c'est aussi ça le problème.
Mais oui, c'est terrible.
Donc, voilà.
C'est terrible.
Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que ce matin, c'est super, j'ai rencontré Dieu.
Ça, c'est une bonne nouvelle.
Et oui, c'était dans la causerie, les garçons bouchés. Avec super, ce matin j'ai rencontré Dieu et j'adore cette chanson, surtout la fin. Je ne suis un dieu que dans la tête des gens. Ça résume tout à fait ce que je pense. Et voilà, et je vous invite à écouter, réécouter les garçons bouchés parce que ça fait du bien. Et puis Azzaro aussi parce que c'est un super parolier, c'est lui qui écrivait toutes les paroles. Et voilà, c'est vraiment très très bon et ça fait un bien fou d'entendre une chanson un petit peu anticléricale et punkette sur les bandes de Radio Canu.
Voilà. Alors, vu qu'on approche,
on a déjà dépassé, pardon.
Ouais, mais je veux dire, on approchait de la fin de notre émission. En
fait. Oui, on est bientôt à la fin.
Donc, on va vous rappeler quand même que Radio Canu reste et est toujours une radio associative, qu'on a lancé un appel à dons en mai 2014.
Ouais.
Et que l'achat du local se précise, ça devrait se faire.
Il y a même des nouveaux jingles sur les bandes continues pour en parler, c'est bien.
Oui. Et que donc, l'appel à dons continue parce que l'idée quand même c'est de dépendre le moins possible en tout cas des banques. parce que voilà, et que l'idée non plus c'est pas de laisser un crédit sur 15 ans pour les suivants et les suivantes qui viendront à Radio Canut, c'est pas du tout ça l'idée quand même.
Ou ceux qui resteront quoi.
Ou ceux qui resteront, non, mais je veux dire voilà, c'est pas du tout de faire un cadeau empoisonné non plus. Donc voilà, donc vous pouvez continuer de soutenir Radio Canut, vous pouvez envoyer vos dons par chèque, je précise, à Radio Canut, boîte poste, enfin BP 1101 69 201 Lyon CEDEX 01.
Et si vous voulez remettre vos dons en liquide, vous pouvez passer les mardis soirs à la prog entre 19 et 20 heures. Par contre, c'est le dernier jour, c'est le 28, et donc ce mardi, et après on rouvre le 25 août.
Voilà. Voilà.
Ben oui. Et vous pouvez aussi le faire par virement. Vous allez sur radiocanu.org et vous avez Libran pour récupérer tous les petits trucs qu'il faut pour votre banque pour qu'elle mette un virement permanent à Radio Canu de 100 euros par mois. Par exemple.
Par exemple.
Comme ça, voilà. Et si vous êtes Bernard Tapie, ben, donnez pas en fait.
Non. Oh. Ok. Et ben voilà, ouais. Quoi d'autre ?
J'ai une autre, alors c'est une micro-info, vraiment, vraiment. C'est juste pour dire qu'il y a plein de festoches qui vont se tenir là, ces temps-ci, machin. Et vous savez que les festivaliers ont des grosses galères, parce que les subventions ont été enlevées, des régions, des villes, et puis même de l'État d'ailleurs. Donc il y a une grande pétition qui est lancée à l'entrée de beaucoup de festivals pour soutenir les gens qui vivent des festivals, notamment les intermittents du spectacle. Voilà, c'est lancé par je crois 4 ou 5 syndicats. Voilà, et donc je vous invite, si vous allez dans des festoches, à voir s'ils ont pas la pétition pour la signer. C'est pas grand chose, hein, c'est une petite signature, mais c'est pour les soutenir parce qu'ils veulent essayer de montrer le nombre de milliers de personnes à qui ils ouvrent l'accès à la culture chaque été. Voilà, pour dire bah oui, on compte et on a, enfin on a une importance quand même, et comme ils le disent, il faut pas focaliser que sur les gros festoches les francophonies, Nuit Fourvière, tout ça, qui sont des gros festivals qui eux effectivement avec qui ont les places sont super chères et puis ils ont des résonances internationales, donc ils ont pas de difficulté à exister. Eux, ils parlent surtout des petits festivals il y a le Facebook par exemple dont on parlait sur Radio Canu dans l'émission Ping Pong la dernière fois, et c'est le genre de festoches qui sont pas très grands, qui vivote, on va dire, et qu'il faut soutenir. Voilà, donc je voulais juste vous inviter, si vous croisez cette pétition, à la signer. Ils ont fait le choix de ne pas la mettre en ligne, mais de la faire signer à l'entrée des festivals. Ben. Et c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est une très bonne idée.
Carrément.
Voilà.
Et ben voilà. On rappelle vite fait quand même, si vous voulez envoyer un mail à la causerie.
lacausericanu@gmail.com.
C'est ça. Et puis le blog, c'est toujours sur blogs.radiocanu.org/lacausserie. Ouais. Merci à Clarence, merci à plein d'autres gens qui laissent des commentaires. C'est vraiment cool. Et ben voilà.
Et vous là derrière qui n'osez pas, allez-y, laissez des commentaires. On adore ça. Même si c'est pour nous dire que c'était nul. Hein.
Oui, on accepte tout.
Et mea culpa, je m'excuse. Pour la semaine dernière, c'était incompréhensible mon truc sur les quarks. Donc je le dis, je me suis réécouté, je dis non, franchement, c'était nul. Donc voilà, faut le dire.
Des fois, on
fait des merdes. Et j'en ai fait une.
Je dirais pas des merdes quand même. On va pas vraiment s'étendre là-dessus.
Non, mais je plaisante.
C'était pas forcément toujours compréhensible.
Voilà. Et juste à dire que on a encore plein d'idées pour la causerie à la rentrée. Mais si vous avez des envies de venir, je le redis, des associations, des artistes ou autres. Contactez-nous, n'hésitez pas, on est ouvert et en général, ça se fait assez facilement. Là, on va avoir un peu de mal au mois d'août, mais à partir du mois de septembre, ça va être cool. Voilà, mais on est là tout l'été.
C'est ça. Ouais. Et on vous souhaite quoi, une bonne nuit, une bonne semaine, du courage pour la semaine. Et puis, je crois que Clara, tu vas présenter le titre de fin.
Oui, on se quitte avec Limb et le titre Little Things.
Yes, bonne semaine.
C'est un peu de l'électro, c'est ça ?
C'est ça.
Ah, c'est pour que tu parles un peu plus.
Oui, j'avais bien compris.
Allez, salut.
Ciao.
Bonsoir.
There's so many things that we miss in our everyday lives. We're so busy hustling, bustling, chasing faraway dreams. We forget the little things, like blue skies, green eyes, and our babies growing. Rainbows, fresh snow, and the smell of summer. We forget to live. Give up.
Forget to live.